Enfin, Lisa, comment peux-tu me dire, comme dans un livre, si moi aussi ça me fait mal quand je suis seul ? Et pas seulement quand je suis seul. Tout ce que j'avais dans le cœur s'est réveillé, maintenant. Et toi, vraiment, toi, ça ne te fait pas mal d'être là ?
Non.
Ça veut dire quelque chose, l'habitude sans doute. Dieu sait ce que l'habitude peut faire avec les gens. Mais tu penses sérieusement que tu ne vieilliras jamais, que tu seras toujours belle et qu'on te gardera ici dans les siècles des siècles? Et je ne parle pas du fait que, même ici, c'est dégoûtant. Mais tiens, voilà ce que je te dirai de ça sur ta vie de maintenant. Là, maintenant, tu es belle, tu es fraîche, tu es brave, toute ton âme, tout ton cœur. Bon, et tu sais, quand je me suis réveillé tout à l'heure, je me suis senti tellement mal d'être ici avec toi. Il n'y a qu'en état d'ivresse qu'on peut se retrouver ici. Si tu étais ailleurs, si tu avais vécu peut-être comme tout le monde, moi, ce n'est pas que je t'aurais désiré. Je serais tombé amoureux, tout simplement. J'aurais été heureux d'un seul de tes regards. Je ne dis pas de tes mots. Je t'aurais attendu au portail. Je serais resté à genoux pour toi. Je t'aurais considéré comme ma fiancée. J'aurais pris ça pour un très grand honneur encore. Jamais je n'aurais pensé quelque chose d'impur sur ton compte. Ici, je le sais, il suffit que je te siffle. Toi, bon gré, mal gré, tu dois me suivre. Et ce n'est pas toi qui me dis ta volonté. C'est toi qui fais avec la mienne. Le dernier des paysans se loue comme journalier. Quand même, il ne se vend pas tout entier. Il sait qu'il y a un délai. Et toi, ton délai, il est où ? Réfléchis seulement. Qu'est-ce que tu donnes ici ? Qu'est-ce que tu es en train de vendre ? Ton âme, oui, ton âme, qui ne t'appartient pas, que tu vends en même temps que ton corps. Ton amour, tu l'offres en pâture au premier ivrogne qui se présente. Ton amour, mais c'est tout, c'est ton diamant, ton trésor de jeune fille. Tu comprends ça, l'amour ? Parce que, pour le mériter, cet amour, il y en a qui sont prêts à mettre leur âme en gage, à se faire tuer. Et ton amour, maintenant, combien est-ce qu'il vaut ? Tu es tout acheté, oui, tout entière. Et à quoi sert de vouloir demander de l'amour, quand même sans amour, on peut tout obtenir ? Mais il n'y a pas d'offense plus grave pour une jeune fille, tu comprends ça ? Tiens, j'ai entendu dire qu'on vous laisse jouer, pauvre idiote. On vous laisse avoir de bons amis. Ce n'est qu'un jeu, rien qu'un mensonge, un sarcasme sur vous, et vous, vous le gobez. Qui c'est ton bon ami ? Est-ce qu'il t'aime, dans les faits ? Je n'y crois pas. Comment peut-il t'aimer s'il sait qu'il suffit que je te siffle pour que tu le quittes ? C'est un dépravé après ça. Est-ce qu'il t'estime, ne serait-ce qu'un petit peu ? Qu'est-ce que tu as de commun avec lui ? Il se moque de toi, et en plus il te vole. Le voilà, son amour. Tant mieux s'il ne te frappe pas, parce qu'il te frappe peut-être. Demande-lui si tu en as un, s'il veut bien se marier avec toi. Mais il te rira au nez, si seulement il ne te crache pas dessus, ou s'il ne te frappe pas, et lui, peut-être, il ne vaut même pas deux sous. Et puis, quand on y pense, pourquoi restes-tu ici à perdre ta vie ? Parce qu'on te donne du café et qu'on te nourrit à ta faim ? Mais on te nourrit pourquoi, dis ? Une autre, une fille honnête, ce morceau de pain, il lui resterait en travers de la gorge, parce qu'elle saurait pourquoi on le lui donne. Tu es en dette ici. Tu seras toujours en dette. Tu resteras en dette jusqu'à la fin des fins, jusqu'au moment où les autres se mettront à ne plus vouloir de toi. Et ça, ça t'arrivera bientôt. Ne compte pas sur ta jeunesse. Tout file en un clin d'œil ici. On te fichera dehors. Et on ne se contentera pas de te fiche dehors. On s'y prendra bien à l'avance, à te houspiller, à te faire des reproches, à t'injurier. Non seulement comme si tu avais donné ta santé, tu avais donné pour rien toute ton âme, toute ta vie, mais comme si, en plus, c'était toi qui l'avais mise sur la paille, ta patronne, qui la laissait sans rien, toi qui la dépouillais. Et n'attends pas de soutien. Tes autres amies, elles aussi, elles se ligueront contre toi, pour lui complaire le mieux possible, parce qu'elles sont toutes ses esclaves ici. Il y a longtemps qu'elles ont perdu conscience et charité. Elles sont devenues des traînées, et il n'y a rien de pire, de plus ignoble, rien de plus dégoûtant au monde que leurs injures. Et toi, tu laisseras tout ici, sans rien pouvoir sauver, ta santé, ta jeunesse, ta beauté, tes espoirs. À 22 ans, tu auras l'air d'une femme de 35. Encore heureux si tu n'es pas malade, remercie le bon Dieu. Parce que tu penses, je parie, que tu ne travailles pas ici, que tu t'amuses. Mais il n'y a pas de travail plus terrible au monde, je crois bien, pas de bagne qui soit pire. Le cœur, on pourrait croire, perdrait toutes ses larmes. Et tu n'oseras pas dire un mot, pas même ouvrir la bouche, quand on te fichera hors d'ici. Tu partiras comme une voleuse. Tu passeras dans un deuxième lieu, puis un troisième, puis encore je ne sais où, et puis tu te retrouveras place au foin. Entre-temps, on aura déjà commencé à te battre. Leur forme de politesse là-bas. Les hôtes là-bas, ils tapent d'abord, ils sont gentils ensuite. Tu ne me crois pas que c'est tellement horrible là-bas? Vas-y, regarde un peu, un jour. Tu pourras le voir, peut-être, de tes propres yeux. J'en ai vu une là-bas, au Nouvel An, devant la porte. Elle s'était fait pousser dehors par ses amis, pour se geler un petit peu, parce qu'elle pleurait trop. Ils avaient juste fermé la porte derrière elle. À 9 heures du matin, tu sais, elle était déjà complètement saoule, dépeignée, à demi-nue, rouée de coups. Fardée, elle-même, et les yeux au beurre noir. Le sang qui coule du nez et des gencives. Un cocher qui venait de se faire la main. Elle restait assise sur les marches de pierre. Elle tenait dans ses mains une sorte de poisson salé. Elle pleurait. Elle marmonnait je ne sais quoi sur sa panette. Elle cognait le poisson sur les marches. Et là, devant le perron, des soldats ivres et des cochers qui s'amassaient et qui se moquaient d'elle. Tu ne le crois pas que toi aussi tu seras pareil? Moi non plus. Je ne voudrais pas le croire. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être, il y a 10 ans, 8 ans, cette femme-là, au poisson salé, elle est venue je ne sais d'où, toute fraîche, comme un petit chérubin, innocente, proprette. Elle n'avait pas idée du mal, elle rougissait à chaque mot. Peut-être, elle était comme toi, fière, susceptible. Elle ne ressemblait pas aux autres, elle avait l'air d'une princesse, elle savait elle-même tout le bonheur qui attendait celui qui l'aimerait. Celui qu'elle aimerait, elle. Tu vois comment ça se termine? Et quoi? Si, à la même minute où elle cognait son poisson sur les marches glacées, ivre et dépeignée, si, à cette minute même, elle s'était souvenue de ses années d'avant, si pures, dans la maison de son père, quand elle allait encore à l'école et que le fils des voisins l'attendait sur la route, l'assurait qu'il l'aimerait toute sa vie, qu'il lui donnerait tout son destin et qu'ils avaient décidé l'un et l'autre de s'aimer à jamais, de se fiancer sitôt qu'il serait grand. Non, Lisa, le bonheur, oui, le bonheur pour toi, ce serait de mourir vite, je ne sais pas où, dans un trou, une cave, comme celle de ce matin, et mourir de phtisie. Tu dis... « À l'hôpital ? Tant mieux si tu t'y retrouves, mais si ta patronne a besoin de toi ?» La phtisie, c'est ce genre de maladie, ce n'est pas une fièvre. Avec elle, jusqu'au dernier instant, les gens gardent l'espoir, ils pensent qu'ils vont mieux. On se leurre soi-même. La patronne, elle y gagne. Ne t'en fais pas, c'est comme ça. Elle a vendu son âme, n'est-ce pas ? En plus, elle doit de l'argent. Elle n'osera pas piper mot. Et quand tu meurs, ils t'abandonnent tous. Ils se détournent parce que... Qu'est-ce qu'il te reste à donner? On te reprochera encore d'occuper une place gratis, de ne pas te presser de passer outre. Tu n'obtiendras même plus à boire. On t'apportera de l'eau en t'injuriant. Tu te presses un peu de crever, charogne. Tu empêches de dormir, tu gins, ça dérange les autres. Je te le dis, moi-même je les ai entendus ces mots-là. Ils vont te fourrer à l'agonie dans le trou le plus noir au fond d'une cave, la nuit, l'humidité. Et là, couchée toute seule, à quoi tu penseras? Tu meurs, on te ramasse à la hâte, n'importe qui, en maugréant, pas le temps. Personne pour te bénir, personne même pour un petit soupir sur toi, vivement qu'on se débarrasse. On achète une caisse, on te sort. Comme ce matin, ils ont sorti cette malheureuse. ils feront le banquet de deuil à la taverne. Dans le tombeau, la boue, la saleté, cette neige mouillée, à quoi ça sert de faire des cérémonies ? Descends-la donc, Vania, toute sa panette qui part les pieds devant, salope, mais raccourcis les cordes, crétin. Ça va comme ça. De quoi ça va ? Tu vois bien qu'elle s'est mise sur le flanc, un être humain quand même. Oh, et puis vas-y, recouvre. Ils ne voudront pas se fâcher longtemps à cause de toi. Ils te recouvrent vite de cette argile bleue, mouillée, et ils repartent à la taverne. Et c'est comme ça que ta mémoire disparaît sur la terre. D'autres, leurs enfants viennent revoir leur tombe, leur père, leur mari. Toi, pas une larme, pas un soupir, pas une prière. Personne, personne, jamais dans le monde entier ne viendra plus sur ta tombe. Ton nom disparaîtra de la surface du monde. Comme ça, comme si jamais tu n'avais existé, si tu n'étais pas né. La boue est le marécage. Tu auras beau, peut-être, cogner toutes les nuits, quand les morts se relèvent, sur le couvercle de ta caisse. Ouvrez-moi, braves gens, laissez-moi vivre encore. J'ai vécu, je n'ai rien vu de la vie. Ma vie est partie en charpie. On me l'a bu, ma vie, dans une taverne de la place au foin. Ouvrez-moi, braves gens, que je recommence tout de zéro. J'avais tellement donné dans le pathos que moi-même, je sentais un spasme qui me montait dans la gorge et tout d'un coup, je me suis arrêté, je me suis relevé un petit peu, pris de panique, et en penchant la tête, tremblant de peur, le cœur battant, je me suis mis à écouter. Il y avait de quoi être troublé. J'avais senti depuis longtemps que je lui avais retourné toute son âme, que je lui avais brisé le cœur littéralement, et plus je m'en persuadais, plus vite et plus fort, je cherchais à atteindre mon but. Le jeu qui m'entraînait. Pas que le jeu, pourtant. Je sentais que mon discours était lourd, maniéré, livresque même. Mais je ne connaissais rien d'autre, moi, que les livres. Ce n'était pas cela qui me gênait. Je le sentais bien, j'en avais l'intuition que je serais compris, et c'est ce côté livre qui m'aiderait le mieux. Mais là, une fois l'effet atteint, j'ai brusquement pris peur. Non, jamais, jamais encore, je n'avais été le témoin d'un désespoir pareil. Elle gisait de tout son long, le visage enfoncé dans un coussin. Elle l'étreignait de ses deux bras crispés. Sa poitrine éclatait de l'intérieur. Tout son jeune corps était parcouru de frissons, comme de convulsions. Les sanglots étouffés qui lui pesaient sur la poitrine la déchiraient et jaillissaient soudain au dehors par des cris, presque des hurlements. Alors, c'est son coussin qu'elle serrait encore plus. Elle ne voulait pas que quelqu'un dans la maison, non, pas âme qui vive, puisse découvrir ses tortures et ses larmes. Elle mordait le coussin, elle s'était mordu le bras jusqu'au sang, cela je l'ai su plus tard, ou bien, en s'accrochant les doigts dans ses nattes défaites, elle restait figée dans cet effort, en retenant son souffle et en se mordant les lèvres. Je voulais lui dire je ne sais quoi, l'implorer de se calmer, mais j'ai senti que je n'oserais jamais, et tout d'un coup, moi-même, comme sous l'effet d'un choc, on aurait dit sous l'effet de l'épouvante, je me suis agité à tâtons pour ramasser mes affaires, je voulais filer. Il faisait noir. J'avais beau essayer, ça me prenait du temps. Soudain, je suis tombé sur une boîte d'allumettes, un bougeoir avec une bougie toute neuve. À peine avais-je éclairé la chambre, Lisa a bondi d'un seul coup. Elle s'est assise, une sorte de grimace lui déformait le visage, un sourire à demi fou. Elle me regardait avec des yeux presque privés de sens. Je me suis assis à côté d'elle, je lui ai pris les mains. Elle est revenue à elle, elle s'est jetée sur moi. Elle a voulu m'étreindre, mais elle n'a pas osé et, tout doucement, elle a penché la tête. « Lisa, mon amie, j'ai eu tort. Excuse-moi, voulais-je lui dire. » Mais ses doigts m'ont serré les mains si fort que j'ai bien vu que je disais des bêtises et je me suis tue. « Tiens mon adresse, Lisa, passe me voir. »« Je passerai, » murmura-t-elle d'une voix décidée, toujours sans relever la tête. « Et maintenant j'y vais. Adieu. Au revoir. » Je me suis levé, elle s'est levée aussi et, d'un seul coup, elle est devenue toute rouge. Elle a frissonné, elle a saisi un châle qui pendait sur une chaise, se l'est jeté sur les épaules jusqu'au menton. Après, Avec, une fois encore, cette sorte de sourire maladif, elle a rougi et m'a lancé un regard étrange. Ça me faisait mal. J'avais hâte de filer, de m'éclipser. « Attendez !» dit-elle soudain, déjà dans le vestibule, juste devant la porte, en me prenant par le manteau. Elle reposa sa bougie en toute hâte et partit en courant. Elle venait de se souvenir de quelque chose. Sans doute elle voulait me l'apporter, me le montrer. En s'enfuyant, elle était devenue toute rouge. Ses yeux brillaient. Un sourire s'était montré sur ses lèvres. Qu'est-ce que ça pouvait être? J'attendis malgré moi. Elle revint une minute plus tard. Ses yeux semblaient comme demander pardon pour je ne sais quoi. En fait, ce n'était plus le même visage que tout à l'heure, lugubre, méfiant, obtus. Son regard de maintenant, il était suppliant, il était tendre, mais en même temps, confiant, caressant et timide. Le regard que les enfants jettent sur celui qu'ils aiment très fort ou celui à qui ils demandent quelque chose. C'était des yeux brun clair, des yeux splendides, vivants, qui savaient exprimer la haine la plus lugubre en même temps que l'amour. Sans rien m'expliquer, comme si, tel je ne sais quel être supérieur, je devais tout savoir sans qu'on m'explique, elle me tendit une feuille de papier. À cet instant, son visage rayonnait, exprimant le plus naïf, presque le plus enfantin des triomphes. J'ouvris. C'était une lettre qui lui était adressée par un étudiant en médecine, ou quelque chose comme cela. Une lettre d'amour très grandiloquente, fleurie, mais extrêmement respectueuse. Je ne me souviens plus des expressions, mais je me souviens très bien que le grand style laissait transparaître un sentiment sincère que rien ne pouvait feindre. Quand j'eus fini de lire, je retrouvai sur moi le regard brûlant, curieux, d'une impatience d'enfant qu'elle me jetait. Ses yeux s'étaient aimantés sur ma figure, elle attendait avec impatience ce que j'allais dire. En quelques mots, à la hâte, mais avec une espèce de joie, et comme avec fierté, elle m'expliqua qu'elle était allée je ne sais où à une soirée dansante, dans une maison de famille, chez des gens très 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 bien, des gens de famille qui ne savent encore rien, mais rien du tout, parce qu'elle, au fond, elle est ici depuis si peu de temps, et seulement comme ça. Elle n'avait pas du tout décidé de rester, elle partirait à coup sûr dès qu'elle aurait payé sa dette. Bon, et il y avait là cet étudiant. Il a dansé toute la soirée, il lui parlait, et il s'est trouvé que, lui aussi, il venait de Riga. Et il la connaissait, quand elle était toute gosse. Ils jouaient ensemble, mais il y a très longtemps. Il connaissait même ses parents, mais ça, il ne savait pas du tout, mais pas du tout, du tout. Il n'en avait même pas idée. Et le lendemain, après les danses, 3 jours de cela, par l'intermédiaire d'une amie, celle qui l'avait accompagnée à la soirée, il lui avait envoyé cette lettre et voilà, c'était tout. Quand elle eut fini de raconter, comme prise de pudeur, elle baissa ses yeux brillants. La pauvre petite, elle gardait la lettre de cet étudiant comme un trésor. Elle avait couru chercher son unique trésor parce qu'elle ne voulait pas que je parte sans avoir su qu'elle aussi, quelqu'un lui vouait un amour pur et vrai, qu'à elle aussi, on lui parlait avec respect. Cette lettre était certainement destinée à rester dans sa boîte, sans aucune suite. Mais quelle importance! Je suis persuadé que, toute sa vie, elle l'aurait conservée comme un trésor, comme sa fierté, sa justification. Et si elle s'en était souvenue d'elle-même, et dans une telle minute, si elle m'avait apporté cette lettre, c'était naïvement pour se rehausser devant moi, se rétablir devant mes yeux, pour que, moi aussi, je la voie, que je la félicite pour elle. Je ne lui dis rien, je lui serrai la main et je sortis. J'avais tellement envie de partir. Je fis toute la route à pied, malgré cette neige mouillée qui tombait toujours à gros flocons. J'étais épuisé, écrasé, stupéfait. Pourtant, la vérité brillait déjà par-delà cette stupéfaction. Une vérité ignoble.